France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Après 2 mois de confinement et 1 mois de déconfinement progressif, c'est peu dire que nous rêvons tous de vacances et de liberté. Jamais sans doute les congés d'été n'auront été aussi attendus et espérés. Mais que faire et où aller précisément cet été, sachant qu'il est encore trop tôt pour parler du coronavirus au passé et qu'il y a toujours des restrictions sanitaires pour empêcher un rebond de l'épidémie. Partir en France, comme nous le disait le Premier ministre le mois dernier, oui, mais pour aller où et pour faire quoi? Que disent les premières réservations en la matière? Est-ce plutôt pour la montagne, la campagne ou la mer? Le confinement nous a-t-il fait réfléchir à la façon d'envisager les vacances? Va-t-il nous conduire à revoir nos habitudes, à rester en France par prudence, à renoncer à l'étranger pour tous les risques que cela comporte en cas de pépin médical? On pose la question ce soir à l'heure où les pays commencent à rouvrir leurs frontières, parfois en ordre dispersé, parfois aussi de manière un peu plus concertée, comme ce sera le cas demain pour les frontières intérieures de l'Union, sachant qu'il s'agit aussi pour la France de faire revenir les touristes étrangers avec nous. Pour aborder tous ces sujets jusqu'à 20h, 4 invités que je salue à distance. Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage. Saskia Cousin, qui est anthropologue du tourisme, enseignante à l'Université de Paris, co-auteur aux éditions La Découverte d'une sociologie du tourisme. Sylvain Kahn, historien et géographe, professeur à Sciences Po, co-auteur aux éditions Odile Jacob d'un ouvrage intitulé « Les pays européens ». Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, je les remercie de s'être rendu disponible un dimanche soir pour répondre à vos questions et je précise que juste après cette émission à 20h, vous pourrez suivre sur notre antenne l'intervention du président de la République.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, direction le standard de France Inter, c'est Philippe qui est en direct d'Annecy. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir France Inter, merci de me prendre ma question, qui est fort simple. Voilà, j'avais prévu un déplacement en Mongolie au mois d'août, à la mi-août exactement. Donc le billet d'avion serait Lyon, Saint-Exupéry, Moscou, Moscou, Ulan-Bator. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais savoir si je peux espérer pouvoir faire ce voyage au mois d'août, quoi.
J'imagine que c'est prévu depuis un petit moment, ce
oui,
voyage,
voilà,
Philippe.
En fait, c'est un séjour de pêche qui est prévu depuis 6 mois. J'ai déjà versé un acompte, bien sûr. Mais voilà, je voulais savoir si je pouvais. En plus, j'ai un visa à prendre en dernière minute pour aller un visa mongol. Et je voulais savoir si je pouvais espérer jouir de ce voyage, quoi.
Alors, Philippe, nos invités vont vous répondre, mais juste pour savoir. Vous êtes déjà renseigné? Vous êtes allé à la pêche aux informations?
La compagnie qui s'occupe de ce séjour de pêche m'a dit que c'était aujourd'hui ils savaient pas, ils pouvaient pas me répondre, mais que bon, c'était si c'est à la limite, ce serait reconduit l'année prochaine, quoi. Mais bon, pour cette année, ils savent pas. Mais bon, ça c'est des renseignements que j'avais pris il y a une quinzaine de jours. Hein. Peut-être que maintenant ça évolue tellement vite que ça peut-être aujourd'hui, je sais pas.
Eh ben, on va essayer de vous répondre, Philippe. Merci beaucoup pour cette question. Jean-Pierre Masse, bonsoir.
Bonsoir.
Président des entreprises du voyage, des questions comme celle de Philippe, j'imagine que vous devez en entendre beaucoup. Et qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Ce voyage en Mongolie, faisable ou pas faisable? Trop tôt pour répondre?
À mon avis, réponse simple, on n'a aucune visibilité sur l'ouverture des frontières en dehors de l'espace européen ou de l'espace Schengen, peu importe. Aucune visibilité. Il semblerait qu'il y ait des possibilités d'ouverture qui seront décidées dans une semaine et qui seront pays par pays à condition qu'il y ait une réciprocité du mouvement puisque la frontière doit être ouverte des deux côtés pour que l'on puisse circuler. Moi, je pense que le séjour en Mongolie au mois d'août sera peut-être difficile à effectuer et je suggérerai à notre auditeur de prendre des dispositions pour organiser ses vacances différemment.
Parce que si on annule après, c'est pas forcément simple d'être remboursé de ses frais avancés, etc.
Alors, l'ordonnance du 25 mars permet à l'agence de voyage, permet mais n'oblige pas, hein, à l'agence de voyage de conserver les acomptes versés préalablement et de les affecter à un voyage futur à destination de la Mongolie ou éventuellement à d'autres destinations et à défaut, dans 18 mois, de les rembourser aux clients.
Sylvain Kahn, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Historien, géographe, spécialiste de la question des frontières. Vous avez entendu Philippe qui veut voyager en Mongolie, mais il est peut-être pas tout seul ce soir à se poser la question de savoir si les gens se demandent s'ils vont pouvoir partir à l'étranger. C'est vrai qu'on est dans une situation très particulière cette année. On n'a jamais vu un mouvement pareil et on a effectivement, comme le disait Jean-Pierre Mas, peu de visibilité.
Ben, ça dépend, oui bien sûr. Ce qui est certain, si j'ose dire, c'est qu'on est dans une grande période d'incertitude. Ça c'est un fait. S'agissant des Européens, ce qui est en train d'être assez certain aussi, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'on voit bien que l'ensemble des gouvernements des États membres de l'Union Européenne et de l'espace Schengen, d'une part, et les habitants, les Européens, quelle que soit leur nationalité, d'autre part, étant attaché de longue date à ce qu'on appelle la libre circulation, c'est-à-dire à la possibilité de passer d'un pays européen à l'autre sans contrôle aux frontières qu'on appelle maintenant intérieures, on sent bien qu'attaché à ça, ils ont envie que ça revienne et que ça revienne assez vite, sans pour autant évidemment qu'on soit imprudent par rapport aux risques sanitaires. Donc, ce qu'on voit poindre quand même depuis quelques jours, ou même depuis une ou deux semaines, et sans doute que ça va être en ce qui concerne la France et peut-être quelques pays frontaliers de la France, ça va sans doute être confirmé par le président de la République ce soir, c'est qu'on est en train de mettre en place un calendrier ou un échéancier de réouverture plus ou moins totale des frontières internes à l'espace Schengen et internes à l'Union européenne. Voilà, d'après ce qu'on voit, que ce soit les recommandations de la Commission européenne, que ce soit les annonces faites par les différents gouvernements en Europe, on doit pouvoir dire que si la situation sanitaire ne change pas dans les trois semaines qui viennent, je pense qu'au plus tard, au 1er juillet, il y aura à nouveau une libre circulation des personnes, que ce soit donc les travailleurs frontaliers, pour qui c'est déjà assez souple, les touristes, que ce soit les touristes d'affaires ou les touristes qui partent pour le loisir ou pour les vacances, que ce soit aussi pour les retraités ou pour les gens qui sont à cheval sur deux pays ou deux localités. Bon, je pense que d'ici au 1er juillet, on sera revenu à comment c'était avant les confinements et les fermetures de frontières qui ont commencé vers le 10 mars.
Voilà, ce sera pour plus facile, en tout cas pour des vacances au sein de l'Union européenne. Sylvain Kahn, je précise, votre ouvrage s'appelle bien Le pays des Européens, parce que j'ai pas donné le titre exact tout à l'heure et je m'en excuse. Saskia Cousin, bonsoir à vous également.
Bonsoir.
Anthropologue du tourisme, on voit, à écouter ce que nous disait Philippe tout à l'heure, qu'il y a toujours une envie d'ailleurs, et malgré ce qu'ont pu nous dire ceux qui nous dirigent, je pense notamment à ce que disait Édouard Philippe le mois dernier, on nous suggérait de partir en France, il y a quand même toujours une envie d'ailleurs.
Alors bien sûr, il y a toujours une envie d'ailleurs, mais enfin structurellement, entre 70% et 80% des Français partent en vacances en France. Donc il y a structurellement des gens qui partent essentiellement en France, et puis il y a toujours des gens qui sont partis ailleurs ou qui vont partir en France plusieurs années de temps en temps faire un grand voyage et qui, en fait, comme notre auditeur, avait préparé ce voyage 6 mois à l'avance et donc souhaite le poursuivre. Mais structurellement, on a quand même l'essentiel des Français qui partent en vacances en France. Donc il faut pas confondre ceux qui veulent continuer à partir. Ceux qui partent tous les week-ends ou qui partaient très souvent et qui vont peut-être changer leur manière de voyager, et puis la grande majorité des Français qui, plus que du tourisme, souhaitent accéder aux vacances pour se reposer, pour se retrouver en famille et entre amis. Et je pense que leur première motivation ou désir aujourd'hui, c'est de pouvoir accéder à ce moment-là de repos, de changer d'air, de retrouver la famille, notamment les grands-parents qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc l'un n'exclut pas l'autre, voyez.
Effectivement. Donc soyez rassurés, Nicolas Daillot, bonsoir à vous également.
Bonsoir.
Président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. On a commencé avec une question pour l'étranger, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va vouloir partir à l'étranger, surtout vu les difficultés liées au passage des frontières. Il y aura encore la possibilité, évidemment, de rester, et peut-être plus encore que jamais, de rester en France avec une offre du côté de l'hôtellerie de plein air.
Oui, tout à fait. Je pense que cette fois-ci encore, même si l'idée n'est pas de fanfaronner, bien entendu, mais une fois de plus, je pense que le camping va montrer sa résilience face à la crise. Ça rappelle un petit peu la situation, même si c'est totalement différent, la situation post-gilet jaune ou post-attentat de 2015. La saison estivale avait été relativement bonne pour les campings français malgré tout, puisqu'on s'appuie aux deux tiers sur une clientèle de Français et de, pour un tiers, une clientèle d'Européens de proximité avec en premier les Hollandais, en deuxième les Allemands, en troisième les Britanniques et les Belges en quatrième, que des voisins de proximité. Alors sans doute que ce sera plus compliqué pour les Britanniques quand même, mais malgré tout l'ouverture des frontières est pour nous très rassurante. D'une part pour pouvoir confirmer toutes les réservations qui avaient été enregistrées, qui sont déjà au sein des plannings des campings français, et puis d'autre part, même si sans doute que l'afflux sera sans doute moins important que d'habitude, mais pour permettre à de nombreux Européens de proximité de passer aussi leurs vacances dans les campings français, mais bien entendu que les Français, qu'ils habitent à proximité du camping, puisqu'il y a une proportion non négligeable de tourisme de proximité, et peut-être que ce phénomène va être amplifié dans le contexte particulier dans lequel nous sommes, mais la moitié des Français parcourent plus de 400 km pour aller entre leur domicile vers le camping où ils vont passer leurs vacances. Quand vous parliez d'amphi d'ailleurs, c'est parfois aussi de passer les vacances dans le département d'à côté, mais surtout en pleine nature et dans un contexte reposant, en famille, en convivialité. Vous en parliez tout de suite et je m'y retrouve parfaitement.
Surtout qu'après un confinement, on a souvent besoin de plein air, de grand air. On va y revenir. Mais on va repartir d'abord au standard de France Inter. On a un appel qui nous vient cette fois de Martinique. C'est Françoise qui est en ligne. Bonsoir Françoise.
Bonsoir Claire.
Alors vous êtes en vacances, vous dites-nous tout.
Non, je vis en Martinique et en fait, j'avais pris un billet d'avion Fort-de-France-Paris au mois de janvier pour venir en juillet dans ma famille en Bretagne. Et en fait, mardi, j'ai reçu un mail d'Air France me disant que mon vol était annulé parce qu'il était, je cite, exclusivement destiné au transport de matériel médical d'urgence. Donc, je comprenais pas comment le 3 août, on aurait eu besoin de matériel médical d'urgence. Donc, en fait, j'ai essayé de modifier mon vol sur Internet, c'était impossible. Et donc, j'ai appelé la plateforme. Une première journée, j'ai appelé 45 minutes, j'ai abandonné parce que c'était trop long. Et le lendemain, j'ai appelé 8 fois et j'ai enfin réussi à avoir quelqu'un qui m'a dit que c'était simplement que Orly était fermé et que évidemment les vols Fort-de-France-Paris-Orly étaient annulés. Mais
donc c'est compliqué de revenir, quoi, c'est ça.
C'était compliqué et moi là je me dis que là le président va intervenir tout à l'heure. Si ça se trouve, il va nous dire que Orly va réouvrir. Donc si ça se trouve, mon vol qui est maintenant pour Charles de Gaulle va être de nouveau annulé. Donc je me dis qu'il faut vraiment être très motivé pour prendre de l'avion ces temps-ci.
Dans toutes ces incertitudes, merci beaucoup Françoise pour cette intervention. Jean-Pierre Masse, qu'est-ce que vous pouvez dire à Françoise? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller?
Alors, parler des départements d'outre-mer et répondre à Françoise. Répondre à Françoise, c'est de lui dire Orly ouvre le 26 juin. Donc l'argument disant que le 3 août, Orly ne sera pas ouvert est un argument stupide qui ne tient pas. Il y aura des vols entre la Martinique et Paris à partir du mois de juin de façon régulière. Et si le vol de Françoise est annulé, elle devrait être reportée automatiquement sur un vol la veille ou le lendemain. Air France assurera des vols entre la Martinique et Paris. Ensuite, il y a le problème des départements d'outre-mer avec une anomalie extraordinaire.
Avec la quatorzaine, c'est ça?
Alors, c'était la quatorzaine. La quatorzaine va être levée normalement à partir du 10 juillet. C'est un département comme un autre, la Martinique. Elle va être levée à partir du 10 juillet, mais les élus locaux auront la possibilité de réguler le nombre de vols, ce qui est complètement inadmissible et incompréhensible. Imaginez les élus de Marseille régulant le nombre de vols au départ de l'aéroport de Marseille. C'est stupide, mais je pense que tout ça devrait s'arranger et je suis persuadé que Françoise pourra revenir en métropole au mois d'août sans aucune difficulté.
Effectivement, ça fait partie de peut-être des annonces qu'on attend ce soir d'arrêter toutes ces particularités locales qui compliquent un petit peu la vie des gens. On a une question sur l'application France Inter de Yann qui nous parle de la Grèce. La Grèce qui indique qu'à partir du 1er juillet, des tests aléatoires seront réalisés dans les aéroports avec le risque de rester en quatorzaine, ce qui n'est pas très clair ni très fair play, nous dit Yann. Impossible d'annuler son voyage. Il y a des tests liste aléatoire. Est-ce que vous savez, vous, Sylvain Kahn, si effectivement au sein de l'Union européenne, c'est un petit peu chaque pays qui organise des tests, met en place des dispositifs particuliers?
Oui, en effet, c'est effectivement une des choses qui caractérise la réponse européenne à cette crise sanitaire, c'est que s'il y a ce qu'on pourrait appeler, disons, une coordination, il n'y a pas d'harmonisation. Et donc, en effet, ce que votre auditeur constate s'agissant de la Grèce vaut effectivement pour tous les pays. Hein. C'est-à-dire que d'abord, on découvre ou on redécouvre à cette occasion que, contrairement à ce que certains pensaient, parfois avec une joie immense ou parfois avec un grand effroi, y compris dans le cadre de l'espace Schengen, y compris dans le droit européen, il existe des circonstances exceptionnelles dont le danger épidémique fait partie, qui
autorise
dans le cadre
chaque pays à prendre des mesures.
Voilà, les États sont autorisés effectivement à... Alors, ils peuvent pas le faire de manière infinie ou indéterminée. Hein. Il faut le notifier, dire voilà, je le fais pour 10 jours, pour 15 jours, et puis c'est plus ou moins limité. Mais donc, c'est possible. Alors, à partir de là, effectivement, ce que met la... en place la Grèce et qu'a relevé votre auditeur, ça s'inscrit finalement dans quelque chose qui a été fait par la quasi-totalité des pays européens, c'est-à-dire soit des contrôles aux frontières, hein, parce que finalement, quand on parle de fermeture des frontières, il n'y a pas eu de fermeture des frontières au sens, si vous voulez, c'est pas synonyme de confinement. Voilà, confinement, on a bien compris ce que c'était, la quasi-totalité des pays, c'est-à-dire quasiment à l'exception des Pays-Bas, de la Suède et de l'Irlande, ont confiné leur population, c'est-à-dire on dit aux gens, ben, vous restez chez vous, et puis éventuellement, vous avez le droit de sortir un peu dans un rayon limité à 1 km ou 500 mètres, bon voilà. Il n'y a pas eu, avec les frontières, l'équivalent de ça. C'est-à-dire, on a dit, on ferme les frontières, ça veut dire, en fait, on contrôle de manière très rigoureuse et très stricte les entrées et les sorties. Et dans le cadre de ce contrôle des entrées et des sorties, un certain nombre de pays, une dizaine à peu près, hein, ont... L'Italie, par exemple, qui n'a pas formellement fermé ses frontières, c'est-à-dire qui n'a pas interdit aux gens d'aller et de venir, mais par contre, les Italiens ont dit assez rapidement, les Européens qui viendraient chez nous, ils devront absolument rester 14 jours en quarantaine, donc en quatorzaine, comme on dit maintenant. Donc ce que fait la Grèce là, c'est qu'en fait, elle assouplit ce type de mesure en disant, ben voilà, nous on a bien conscience qu'on a très envie que les gens reviennent faire du tourisme. On sait que les Européens, beaucoup d'entre eux aiment beaucoup faire du tourisme en Grèce. Néanmoins, il faut quand même qu'on contrôle un peu la situation sanitaire. On n'est plus, et d'ailleurs la Grèce est un des pays qui a le mieux jugulé la crise, hein, c'est-à-dire on n'en parle pas très souvent, mais en Grèce finalement il y a un nombre à la fois de cas et de décès par habitant liés au coronavirus qui est un des plus faibles d'Europe. Et donc les Grecs rouvrent leurs frontières en disant, on va pratiquer des contrôles aléatoires. Ce qui finalement paraît, me semble-t-il, à la frapper au coin du bon sens, et en même temps est une manière relativement souple de faire. Et surtout, bon, je comprends que votre auditeur soit embêté, parce que quand vous prenez un séjour de 2 ou 3 semaines et sur lequel on vous dit « Ah, vous allez devoir passer 10 ou 14 jours en quarantaine », c'est sûr que ça flingue un peu vos vacances. Mais néanmoins, si vous voulez, on ne peut pas en même temps souhaiter, comme nous le souhaitons tous, réouvrir le tourisme à un maximum de gens et en même temps complètement se désarmer par rapport au risque d'une deuxième vague ou d'un rebond. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde,
mais il faut faire avec.
Par rapport à votre question, oui, effectivement, tous les pays vont mettre comme ça en œuvre des mesures un peu différenciées pour essayer de faire les deux en même temps, et le tourisme et le contrôle.
Merci Sylvain Kahn, on repart au standard de France Inter et on va dans l'Indre. Cette fois, c'est David qui est au bout du fil. Bonsoir David.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Est-ce que vous m'entendez ?
On vous reçoit 5 sur 5.
Ben, très bien. Alors tout d'abord, mes compliments et merci aux invités d'intervenir pour cette émission sur le tourisme, c'est ça ?
Absolument. Et vous aviez une question, voilà. Parce que je crois que vous vous occupez d'un éco-gîte, c'est ça ?
La question que j'avais, c'est plutôt une réaction et un point, une opinion, un témoignage. Quoi. Moi, je suis hébergeur touristique dans le Indre, le sud de l'Indre, au nord de la Creuse. Donc j'ai un label éco-gîte, chambre table d'hôte, gîte de France, depuis déjà un certain temps. Mais donc j'observe la situation actuelle qui était assez délicate, puisque j'ai pas beaucoup de réservations, quasiment pas même. Hein.
Pour l'instant, les gens ont un peu peur, pour l'instant, c'est ça, vous nous dites, a priori?
Ben, oui, j'entends beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes, de doutes pour partir à l'étranger, mais la France déjà offre beaucoup de territoires, beaucoup de paysages, beaucoup de de choses à découvrir. Donc, je pense que c'est plus rassurant de, pour cette année, en tout cas, de, d'essayer de venir dans, dans les territoires qui offrent des paysages et des lieux tout à fait pittoresques, quoi. Donc, nous, on est pas très loin d'Argenton-sur-Creuse, la petite, la Venise verte en Berry. Bon, il y a de beaux paysages, c'est vallonné, c'est calme et tranquille. Donc
il faut y aller. Ben voilà, allez chez David.
On vous attend, avec les bras ouverts, en prenant bien sûr toutes les précautions d'usage qui ont été mises en place par la Fédération Gîtes de France, qui a œuvré beaucoup. Bon, certes, les collectivités n'ont peut-être pas fait ce qu'il fallait pour mettre en avant le potentiel du territoire, mais
le gouvernement, il lance une campagne cet été. Je visite la France. En tout cas, ça, c'est le message.
Oui,
il est clair.
J'ai entendu des choses, mais décliner là aujourd'hui auprès de moi, je vois rien venir.
Quoi. Bon, en tout cas,
un certain temps. Alors bon, certes, juillet, août, septembre, octobre, il y a encore des belles périodes. Donc, j'espère que les visiteurs viendront nous voir, quoi.
Bah, allez, le message est passé, David. Merci, merci mille fois. Surtout que, allez, Saskia Cousin, c'est à vous que je vais poser la question. Les gîtes, les éco-gîtes, c'est quelque chose qui attire de plus en plus, quand même.
Alors c'est toujours la même chose qui attire de plus en plus, c'est-à-dire que on le médiatise, mais en fait, comme l'a dit monsieur, en fait les labels, les chambres d'hôtes existent depuis très très longtemps. Après, il y a eu une médiatisation avec des plateformes internationales qui ont fait connaître ces hébergements, mais en fait ce mode de ces pratiques d'hébergement existent depuis toujours, avant même finalement la naissance de l'industrie hôtelière. Donc en fait, ce qui ça fait un peu, j'ai un peu l'impression de dire tout le temps que c'est toujours pareil, mais non, là, en fait, on met la focale médiatique, politique, économique sur une offre qui existe depuis très longtemps, qui est structurée, qui est organisée et qui avait un peu disparu dans, on va dire, dans la médiatisation, notamment du tourisme international, qui est médiatisé par l'industrie aérienne ou l'hôtellerie marchande, mais ça existe depuis fort longtemps. Ils sont très organisés et il existe d'autres plateformes que les plateformes anonymes type Airbnb. Et ce qui me paraît intéressant et important de rappeler, parce qu'il y a ces histoires de, est-ce qu'on peut réserver, est-ce que ça va être annulé, est-ce que je vais être remboursé, etc., que le type de relation qu'on va avoir quand on réserve directement auprès d'une chambre d'hôte, d'un gîte ou pour une activité, ça construit d'autres formes de relations. Évidemment, il faut lire les contrats, mais il y a une relation de confiance qui s'instaure et qui est de nature très différente. On le voit en fait dans la manière dont soit les touristes, soit les hébergeurs annulent ou essaient de ne pas rembourser quand ça passe par une plateforme anonyme, alors que quand il y a une relation directe qui s'instaure entre les vacanciers et leurs hôtes, il y a une autre relation. Donc il existe la possibilité. Donc c'est peut-être le moment de revenir vers les collectivités publiques comme les offices de tourisme ou les coopératives, les plateformes coopératives qui ne masquent pas en fait les contacts. Je pense par exemple à la plateforme des oiseaux de passage qui mettent directement, si vous voulez, en relation. Et là, il se passe quelque chose où on peut discuter avec votre hôte, se rassurer sur est-ce que les conditions de distanciation physique vont être respectées, poser les questions que l'on souhaite. Donc en fait, ça existe depuis très longtemps, pour résumer, et c'est un mode d'hébergement qui était plébiscité et puis qui est un petit peu effectivement c'est un peu amoindri parce qu'il y avait ce low cost qui permettait finalement de partir à 3 heures de vol pour moins cher qu'une semaine dans une chambre d'hôte en France, ou pour le même prix. Donc là, il risque d'y avoir un retour, enfin il risque ou une chance, ça dépend pour qui, de retour de ces personnes qui en fait faisaient des choix financiers, mais de partir plutôt à 3 heures de vol qu'à 3 heures de voiture. Mais en fait, les structures sont là, elles existent depuis très longtemps. En fait, elles existent depuis le milieu du 19e siècle.
Voilà, alors ne pas hésiter à aller visiter l'Indre et bien d'autres régions. Nicolas Daillot, vous partagez ce que vient de dire Saskia Cousin ?
Mais tout à fait. Je pense que cette crise a permis de démontrer des choses fondamentales. On parle toujours, et on a raison, parce que ce sont des destinations émettrices dont le potentiel de croissance est très important, on parle toujours de la conquête de touristes étrangers extra-européens, les Chinois, les Américains, etc. C'est très bien, et il faut que la France soit très efficace sur ces segments. Mais n'oublions pas, comme ça a été précisé au départ, en préambule, que ce qui fait vivre le tourisme français, c'est le tourisme domestique, le tourisme des Français en France, et le tourisme des Européens de proximité. La majeure partie des étrangers étrangers qui fréquentent la France sont les Européens. C'est très important pour pouvoir faire vivre, je parle du tourisme domestique, les territoires de notre pays, que ce soit les villes, que ce soit les territoires ruraux. Vous savez qu'une grosse partie de la fréquentation touristique se concentre sur simplement 20-30% du territoire, alors qu'il faut faire profiter de tous les territoires de la manne de l'activité touristique et de l'économie touristique. Et si cette crise devait avoir un mérite, alors on l'aurait bien évité, bien entendu, hein, c'est d'arriver à montrer à quel point le tourisme est une richesse pour la France et que le tourisme domestique en particulier doit être protégé, encouragé par les pouvoirs publics, ce qu'il a fait, hein, vraiment ils ont fait le job, mais pour pouvoir faire encore plus, parce qu'on a un potentiel qui est en grande partie inexploité, qui pourrait permettre d'arriver à faire de nombreux emplois supplémentaires, à réaliser de nombreux investissements supplémentaires dans les territoires, notamment ruraux, dans l'Indre comme ailleurs, que ce soit des campings, ou que ce soit des gîtes, ou que ce soit des hôtels, ou même de la restauration, et tout un tissu d'activités de loisirs, qui pourrait être encouragé, et j'espère d'ailleurs que le plan de relance européen et que le plan de relance français va pouvoir encourager justement la dynamisation de l'activité touristique qui n'est pas encore à la hauteur de ce qu'elle pourrait être dans notre pays. Donc oui, je partage évidemment tout ça et je pense que, alors qu'on parlait encore de surtourisme il y a 3 mois, aujourd'hui on s'aperçoit que lorsque le tourisme souffre, finalement c'est toute l'économie française et toute la France qui souffre.
Nathalie est à Nancy. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir à tout le monde.
Alors vous avez une question très pratique à nous poser.
Oui, tout à fait. Donc nous avons loué pour la 2e année consécutive un appartement dans une résidence de vacances. Alors le principe, c'est que les locataires quittent l'appartement à 14h et le nouveau locataire l'occupe à partir de 18h. Donc on est un petit peu inquiet en termes d'hygiène, puisqu'il se sera écoulé seulement 4h a priori. Et puis on ne sait pas si l'appartement aura été aéré. Et évidemment, on a un peu des soucis en termes de désinfection, puisque c'est le mot qu'il faut employer. Dans la mesure où habituellement les gens qui quittent certainement nettoient, mais là une personne peut très bien être contaminante tout en ayant bien voulu nettoyer l'appartement. Donc on a un peu un souci d'occupation avec un délai aussi court entre deux locations.
Alors on va demander à Jean-Pierre Mas, tiens, s'il y a des règles très précises en matière sanitaire actuellement, notamment pour les locations de ce genre.
Je tiens à rassurer Nathalie, pour qu'une résidence de tourisme, un hôtel, un établissement hôtelier, voire un camping puisse réouvrir, cette résidence de tourisme doit respecter un protocole sanitaire, et le protocole sanitaire prévoit notamment la désinfection entre un occupant qui s'en va et l'occupant qui arrive. Donc Nathalie peut aller dans cette résidence, dans cet appartement, sans aucune crainte.
Une question de Pierre sur l'application France Inter. Je ne comprends pas. Tous ces gens qui, après des mois de confinement, vont se serrer dans un avion ou dans des resorts bondés. Moi, cet été, je rêve de randonnée solitaire en forêt ou en montagne. Je ne sais pas qui veut réagir. Allez, Saskia Cousin.
Oui, alors encore une fois, tous ces gens, c'est en fait une petite minorité qui avait l'habitude de prendre l'avion et qui veut faire, ou alors qui n'a pas l'habitude mais qui avait prévu un voyage et qui se projette. Après, il y a des formes de socialisation aux vacances qui font que pour les uns, en fait, le désir il est d'aller loin. Pour d'autres, il est de se retrouver avec plein de monde dans une ville. Pour d'autres encore, de goûter enfin à de la solitude. Mais je suis pas certaine que la majorité des Français aujourd'hui rêvent de prendre l'avion et de se confiner pour aller au bout du monde, parce que d'abord il y a un énorme problème que cette crise du coronavirus, elle est aussi une crise économique, une crise sociale, que d'habitude il y a environ 40% des Français qui partent pas en vacances l'été, 45%, et que là, avec la crise économique et avec aussi la réduction des congés payés ou les congés payés obligés pris pendant le confinement, je pense que, enfin, le vrai problème là, il est de pouvoir partir, en fait.
De trouver les moyens de partir, effectivement.
Voilà, trouver des moyens de partir, et quand on dit de trouver les moyens de partir, c'est on le voit, les motivations sont les mêmes que d'habitude, c'est se reposer, se retrouver en famille et entre amis, et surtout que la maison est devenue un lieu de travail, il y a un lieu d'école, donc en fait cette rupture déjà entre le travail était déjà poreuse, mais elle a complètement disparu, donc voilà. Donc tout ça pour dire que, évidemment que l'industrie du tourisme, qui est l'industrie aérienne et hôtelière, a un problème, mais ça n'est pas le problème des vacances des Français. Et tout le problème vient que l'ensemble de nos indicateurs sont basés sur l'industrie hôtelière, ou l'industrie l'industrie aérienne et que c'est ce qui a été dit par le responsable de l'hôtellerie en plein air. On ne regarde pas en fait les retombées sociales, économiques des vacances des Français sur les territoires, puisqu'on pense le tourisme en termes de marché d'exportation et donc vis-à-vis des touristes étrangers. Si on regarde ce que font les gens, ce qu'ils dépensent sur les territoires, peut-être que c'est pas le même paquet moyen que quand vous êtes à Paris, mais que vous dépensez chez Vuitton, que vous prenez l'avion. Mais en fait, en termes de retombées sociales et politiques et économiques, et en termes de départ en vacances, c'est très important. Donc, faire attention à pas confondre les problèmes d'industrie touristique et les problèmes des Français qui ont du mal à accéder aux vacances.
On est d'accord. On relativise tout ça. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de questions ce soir sur les voyages un peu lointains et sur les frontières. Mais c'est normal puisque c'est dans l'actualité. Et justement, on a Fabien qui est dans les Alpes. Oui, c'est ça, dans les Alpes de. Non. Région Provence, Alpes-Côte d'Azur, Sanary-sur-Mer, c'est dans le Var, me semble-t-il. Bonsoir Fabien, vous avez patienté longtemps et on vous en remercie, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tous. Voilà, j'avais une question. J'ai mon fils qui est depuis 4 mois en Corée pour ses études et qui doit revenir début juillet après 2 annulations de vol. Et je voulais savoir s'il devait observer une quatorzaine à son retour. Si c'est le cas à la maison, est-ce que c'est valable et est-ce qu'il va y avoir des contrôles et qui pourrait éventuellement contrôler quoi.
Eh ben, on va vous répondre. Merci beaucoup, Fabien. Et cette fois, je vais essayer de vous presser un petit peu dans les réponses parce que il y a encore pas mal de questions et on n'a malheureusement que jusqu'à 19h57 ce soir, puisqu'après, vous le savez, il y a une intervention présidentielle qui va intervenir. Jean-Pierre Masse, que pouvez-vous répondre à Fabien pour son fils? Il va revenir de Séoul. Qu'est-ce qui se passe pour lui?
La France métropolitaine ne pratique pas de quatorzaine. Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer de Séoul en France. Donc, il faut attendre qu'il y ait un accord entre la France et la Corée de manière à ce que le fils de Fabien puisse rentrer de Séoul. Et pour l'instant, il n'y a aucune visibilité sur la date de cet accord.
Merci beaucoup pour cette réponse très précise. Jean-Henri est en Bretagne. Bonsoir.
Bonsoir. Enfin, c'est Jean, oui, peu importe. Mais donc, petite question, disons, de recherche d'informations. Voilà, comme de temps en temps je fais, je vais dans une station thermale en Hongrie, puisque c'est un pays qui offre quand même pas mal d'avantages de ce côté-là. J'y vais par mes propres moyens, ce qui veut dire que je traverse une partie de la France, naturellement, l'Allemagne, l'Autriche, et je rentre en Hongrie. Donc, plusieurs passages de frontières avec des législations qui semblent être locales, enfin, qui semblent être de pays par pays. Et ma question était la suivante, est-ce qu'il existe un site internet, par exemple, au niveau de la Commission européenne, qui récapitule les obligations que l'on a, sachant que, bah, effectivement, on a pris l'habitude de se déplacer dans l'espace Schengen facilement, passer une frontière, sans problème, quoi. Donc, tout d'un coup, on est dans...
Eh ben, on va poser la question à Sylvain Kahn, c'est sa spécialité. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, Sylvain Kahn? Mais oui.
Je peux répondre à Jean-Henri, si j'ai bien compris.
Jean-Louis, je crois.
Oui, bien sûr. Bon, à notre auditeur, en tous les cas, qui souhaite aller en Hongrie par la voie terrestre, que oui, sur le site de la Commission qui s'appelle Europa, vous trouvez effectivement une page qui recense les différentes informations. Mais si vous me permettez une suggestion, je vous engage néanmoins à compléter les informations que vous trouverez sur le site de la Commission par les informations que vous trouverez sur le site de chaque ministère des Affaires étrangères ou de chaque ministère de la Santé des différents pays que vous allez traverser. Voilà, moi je me suis rendu compte que parfois, il y a rarement un site où on trouve tout et c'est toujours en allant sur plusieurs sites des pays concernés qu'on arrive finalement à avoir une information complète.
Voilà, il faut prévoir un petit peu de temps avant pour préparer le voyage, hein, si je peux me permettre. Christophe, lui, est en Anjou. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci, toujours superbe aux émissions.
Merci.
Je vous appelle, nous, concernant en fait le camping. On pratique le camping comme beaucoup de Français, tente, caravane. Et on voulait savoir s'il y avait des mesures qui vont changer par rapport à d'habitude. Je pense aux sanitaires... Alors qu'on n'a pas le même problème dans les mobilhomes. Un mobilhome, il y a la douche, il y a les toilettes sur place, mais dans une tente ou une caravane, comment on fait?
Alors, c'est une question pour Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Que alors, pouvez-vous dire à Christophe concis,
bien que ce soit un dossier très dense dont on attend la validation par les pouvoirs publics en début de semaine prochaine. Mais pour faire simple, l'équilibre a été trouvé, me semble-t-il, dans les discussions qu'on a pu avoir et suite à l'audition qu'on a eue avec le Haut Conseil pour la Santé publique, entre la sécurité sanitaire, qui va être présente dans les campings, puisqu'encore une fois, ce sont des espaces organisés avec des gestionnaires qui vont mettre tout ça en œuvre avec professionnalisme, et puis évidemment, le plaisir du client pour que les vacances soient réussies et pour que les fondamentaux du camping soient bien présents. Et les blocs sanitaires seront bien ouverts dans les campings cet été, de même que les piscines, de même que les activités. Par contre, évidemment, tout ça va être organisé précisément. En ce qui concerne les sanitaires, par exemple, lorsque la distanciation ne sera pas assurée, je pense par exemple aux urinoirs contigus, il y en aura sans doute 1 sur 2 de condamnés, de façon à ce que, encore une fois, la distanciation et les objectifs de sécurité soient garantis. Il y aura un sens de circulation à l'intérieur, il y aura des fréquences de nettoyage beaucoup plus importantes, il y aura de la désinfection, il faudra se laver les mains quand on rentrera dans le bloc sanitaire, mais on pourra pratiquer le camping cette année, de même qu'on pourra louer un hébergement locatif qui lui aussi va faire l'objet de procédures de nettoyage particuliers, et la piscine, qu'elle soit couverte ou extérieure, sera également ouverte, avec là aussi un fonctionnement un petit peu modifié, mais encore une fois, les fondamentaux vont être présents et la qualité de la prestation ne sera pas dégradée.
Et ben voilà qui est précis. Je pense que Christophe, vous avez eu votre réponse. Il nous reste, pour être honnête, 2 minutes et j'aimerais bien qu'on fasse un dernier tour de table. Et j'aimerais savoir avant toute chose, Jean-Pierre Mas, si on a déjà une idée au vu des tendances, au vu des réservations pour cet été, quelles sont les formules qui se dégagent, quelles sont les envies qui se présentent.
Écoutez, à ma grande surprise, la France d'après sera un petit peu la même que la France d'avant. On a procédé à une enquête auprès des Français, l'Institut BVA a procédé à cette enquête. Le nombre de Français qui est décidé à partir en vacances cet été est supérieur à celui qu'il était l'an dernier, 59% contre 55%. Ce sont des intentions, ce ne sont pas des réalisations. Et où vont-ils aller? Essentiellement en France, 9 sur 10, ce qui est beaucoup par rapport aux années précédentes, et en France où, essentiellement à la mer, au bord de la mer, 55% des Français continueront à passer leurs vacances au bord de la mer, et il y a une petite progression de la montagne et de la campagne par rapport aux années précédentes, mais pas énormément forte. Donc des vacances, j'ai envie de dire, comme d'habitude, mais certainement plus près du domicile de départ.
Nicolas Daillot, vous allez avoir les 30 secondes pour conclure à votre tour. Quel est votre principal message? Allez, même pas 15 secondes ce soir.
Eh bien, le message est dans le complément de ce que dit Jean-Pierre, c'est qu'on constate que le littoral est en forte hausse, ce qui est normal, enfin en forte hausse, depuis que le Premier ministre a annoncé évidemment que les vacances pourraient se passer cette année. Comme les Français aiment le littoral fonctionne bien. Les réservations ont explosé au début du mois de juin, sans qu'on ait rattrapé évidemment ce qu'on avait fait l'année dernière à la même époque.
Et là, c'est fini.
Ce qui ressort de manière très nette, c'est le rapport qualité-prix.
Je suis obligé de vous couper, malheureusement. Merci Nicolas Daillot, merci Sylvain Kahn, merci Saskia Cousin, merci Jean-Pierre Mas. Je vous coupe parce que ce soir, on a effectivement quelque chose d'impondérable. D'abord la pub et après le président de la République.